Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Vous savez, les questions vont nous mettre d'emblée en contact avec un sujet mal compris, c'est-à-dire le rapport existant entre le christianisme et l'Ancien Testament. Le chrétien doit-il en effet pratiquer la polygamie, suivre la loi du talion, offrir des sacrifices d'animaux à son Dieu, garder le jour du sabbat, utiliser des instruments de musique dans son culte, passer par l'intermédiaire d'un sacrificateur ou prêtre afin d'accéder à son Dieu, subir la circoncision en signe d'alliance avec son Créateur. En bref, les chrétiens sont-ils liés aux prescriptions et à l'autorité de l'Ancien Testament? Si oui, les questions précédentes reçoivent, elles aussi, une réponse positive, aussi impraticable que cela puisse paraître. Par contre, si l'Ancien Testament, en tant qu'autorité, n'a pris force de loi sur le disciple du Christ, ses pratiques doivent être abandonnées. La question de l'autorité de l'Ancien Testament n'a absolument rien à voir avec son auteur. Ceux qui connaissent la vérité savent et croient que ces Écritures sont issues de l'inspiration divine. Et la chose est clairement établie par l'apôtre Pierre lorsqu'il s'exprime ainsi. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Ancien Testament est bien inspiré de Dieu. Les hommes qui l'écrivirent ne comptaient pas sur leur propre génie créateur. Il leur fut dicté avec la plus grande exactitude ce que l'Éternel décidait de livrer à l'obéissance et à la méditation des Israélites. C'est d'ailleurs le même Dieu qui, bien des siècles plus tard, inspirait la rédaction du Nouveau Testament. Par ailleurs, cette autorité n'a rien de commun avec sa praticabilité. Trop de citations directes de l'Ancienne Alliance faites dans le Nouveau Testament nous empêchent de mettre en doute ses possibilités pratiques. Jésus n'est-il pas né en vertu des prophéties de l'Ancien Testament, par exemple? Les écrivains du Nouveau Testament se servent, à d'innombrables reprises, d'incidents s'étant déroulés dans l'Ancien Testament afin d'étayer les principes qu'ils posent. Cela aussi nous fait comprendre combien l'Ancien Testament est présent dans les enseignements de la Nouvelle Alliance. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Paul, en écrivant aux Romains, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Paul venait précisément de citer l'Ancien Testament. Il ajoute que tout cela a été écrit pour édifier également les chrétiens. Et cela est vrai. Quelle parole de patience, de réconfort et d'espérance ne nous donnent pas les anciennes Écritures? Un distinguo est cependant nécessaire. L'Ancien Testament, bien qu'ayant pour le chrétien une énorme valeur d'édification spirituelle, ne constitue pas pour lui une loi. Il peut étudier les Écritures de l'Ancien Testament et constater que l'Éternel a toujours fidèlement gardé ses promesses envers ceux qui le servaient patiemment. Par conséquent, nous pouvons à notre tour compter sur ses promesses de ce côté-ci de la croix. Le nœud du problème se trouve donc être les chrétiens. Vivent-ils sous l'autorité de l'Ancien Testament? Le prophète Jérémie étant le porte-parole de Dieu, on ne s'étonnera pas par conséquent de lire à maintes reprises dans son livre des choses telles que « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ce que Jérémie prédit est donc ce que le Seigneur lui avait annoncé. Et l'une de ces choses, et non moins des moindres, fut la prédication de l'établissement d'une nouvelle alliance, d'un nouveau testament. Certains points profonds retiennent notre attention. Premièrement, la nouvelle alliance serait différente de celle que Dieu avait faite avec Israël lorsqu'il est délivré du joug égyptien. Deuxièmement, le Nouveau Testament n'aurait aucune application parallèle à l'Ancien, puisque donné après ces jours-là, c'est-à-dire après l'Ancienne Alliance. Troisièmement, la Nouvelle Alliance allait être écrite au-dedans, dans le cœur de l'homme, alors que l'Ancienne avait été gravée avec des lettres sur des pierres. Les hommes ne naîtraient pas en entrant ipso facto dans la famille de Dieu par le truchement de cette alliance, pour se voir ensuite enseigner sa parole. C'est notre quatrième point. La vérité leur serait d'abord enseignée afin que Christ les amène au Père. Et cinquièmement, sous le Nouveau Testament, la rémission serait absolue, car Dieu leur pardonnerait leurs iniquités et ne se souviendrait plus de leurs péchés. Ceci se trouve disposé en contraste avec les sacrifices effectués en préfiguration de la mort de Christ. L'expiation des péchés sous la première alliance était faite annuellement par l'offrande de sacrifices animaux. Il s'agissait d'une réminiscence continuelle du fait que le pardon n'était nullement définitif puisque le Christ n'était pas encore mort pour le péché. L'Épître aux Hébreux le dit bien, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Par le canal de Jérémie, nous apprenons donc que Dieu prévoyait au moins 5 changements aussi radicaux que significatifs quant à la nouvelle alliance, ce Nouveau Testament. Non seulement l'Écriture nous annonce-t-elle par le prophète Jérémie qu'une nouvelle alliance sera traitée, mais nous trouvons de plus dans l'Épître aux Hébreux au moins 2 déclarations de sa réalité. La prédiction de Jérémie est citée en Hébreux chapitre 8, versets 8 à 12. Et elle est immédiatement suivie de cette constatation. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Le mot alliance, tel qu'il est utilisé dans la Bible, signifie disposer de quelque chose qui vous appartient par testament ou de toute autre manière. C'est une des raisons pour laquelle les mots testament et alliance sont utilisés indifféremment dans la Bible. Les 10 commandements sont appelés l'alliance en Exode chapitre 34 et verset 28. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Cette première alliance, devenue ancienne, vieille, et fut abolie. En Hébreux chapitre 10, se trouve une autre citation à la prédiction du prophète et qui conclut « Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. » Le salut du chrétien ne passe pas par la loi, par l'alliance faite par Dieu avec Moïse sur le mont Sinaï. L'épistolier aux Hébreux dit bien que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Nous disposons par la grâce de Dieu d'une route nouvelle et vivante. Suivre les enseignements de Jésus et non la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï pour le peuple juif. Conformément à la prophétie de Jérémie, Dieu a tenu sa promesse. Paul en Colossiens chapitre 2 et verset 14 affirme que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances du condamné et l'a détruit en la clouant à la croix. L'épître de Paul aux Colossiens exalte la personne et les actions de Jésus-Christ. Elle dit notamment que tout a été créé par lui et pour lui. Qu'il est la tête du corps de l'Église, que nous avons tout pleinement en lui. Que lorsque Christ est en nous, il représente l'espérance de la gloire. Mais l'homme a répudié cette perfection totale en s'appuyant plutôt sur des philosophies humaines et s'est laissé gruger. Le but purement mystique, spirituel du christianisme commença très tôt à se modifier. Et Paul dit de certains dirigeants religieux, ils ont à la vérité une apparence de sagesse sans qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ce caractère resté purement sacramentel et législatif est encore souligné par l'apôtre. Que personne d'autre ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. L'Ancien Testament devait céder le pas. Il était vain de vouloir encore justifier les anciennes lois, pratiques et traditions. Il est étrange de constater qu'on tente encore de le faire de nos jours en prétendant que les lois cérémonielles ont bien disparu, que mais tous ces éléments moraux sont demeurés. Jamais la Bible ne justifie une telle attitude, car les Écritures ne font pas une telle distinction. Vouloir perpétuer l'usage des instruments de musique dans le culte comme ils étaient utilisés sous l'Ancienne Alliance, c'est faire abstraction du changement de testament voulu et ordonné. Dès lors, pourquoi ne pas également offrir des sacrifices semblants pour tenter de plaire à Dieu? La pratique de la polygamie, observée si souvent dans l'Ancien Testament chez des gens tels que David et Salomon, n'est plus tolérée dans le Nouveau. Les lois du mariage établies par Jésus-Christ ne mentionnent que la stricte monogamie. Les efforts frénétiques que développent de nos jours certains groupements religieux pour faire admettre l'observation du sabbat sont incompréhensibles pour celui qui connaît sa Bible Deutéronome chapitre 8, la loi de Moïse et la loi de Dieu sont une seule et même chose. Le verset 1 stipule que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et ensuite, au verset 8, on peut remarquer qu'il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Si cette distinction entre les deux lois est si évidente, si claire, comment se fait-il que Jésus lui-même n'ait jamais fait la différence? Il précise en Marc chapitre 7 et verset 10, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Il s'agit là d'un des 10 commandements. Lorsqu'un docteur de la loi demande à Jésus pour l'éprouver, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis il ajoute, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il apparaît que ces deux préceptes ne se trouvent pas dans les 10 commandements. Ils font partie de la prétendue loi rituelle ou cérémonielle. Certains pensent évidemment que le plus important commandement est « Souviens-toi du jour du sabbat ». Mais tel n'est pas ce qu'enseigne Jésus. La vérité veut que l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ait été abolie, remplacée. Dieu a donné au genre humain un nouveau testament qui stipule les termes du pardon pour le péché. Ce testament détaille la manière d'adorer l'Éternel selon sa volonté. Le Nouveau Testament établit une fois pour toutes les règles de moralité, le mode de vie du chrétien. Il s'agit de la volonté définitive de notre Créateur. Les enseignements du Nouveau Testament constituent les commandements auxquels les hommes d'aujourd'hui doivent obéir, doivent se conformer. Ils le feront s'ils aiment leur Dieu. Car Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Alléluia, 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 alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans le monde. Nous parlerons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, CEDEX. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, CEDEX, France. Au revoir, à la semaine prochaine, même heure, et que le Seigneur vous garde.